Eh bien, mes chers amis, je voudrais lire quelques versets de la parole, puisque c'est elle et elle seule que nous voulons écouter. C'est dans le chapitre 43 du prophète Ésaïe, au verset 9e, nous lisons ces paroles. Fais sortir le peuple aveugle qui a des yeux. On peut avoir des yeux, être aveugle. Et les sourds qui ont des oreilles, on peut avoir des oreilles, être sourd. Ne rien voir des œuvres de Dieu, ne rien entendre de sa voix, de sa majesté. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples se rassemblent. Qui d'entre eux a déclaré cela? Et nous a fait entendre les choses précédentes. Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient. Ou qu'ils entendent et disent, c'est la vérité. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous croyiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que moi, je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, il n'y en aura pas. Moi, je suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y en a point qui sauve. Moi, j'ai déclaré et j'ai sauvé et j'ai fait entendre. Quand il n'y avait pas de Dieu étranger au milieu de vous, et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Aussi, depuis qu'il y a un jour, je suis le même. Et il n'y a personne qui délivre de ma main, j'opérerai. Et qui peut m'en détourner? Que Dieu bénisse sa parole et que ce soir, par la puissance du Saint-Esprit nous pénétrant, nous puissions tous nous écrier « C'est la vérité ». Nous sommes arrivés déjà à ce soir du 21 mai 1994. Et hier soir, alors que nous ouvrions nos Bibles à la première page de la Genèse pour une méditation biblique, préparant le camp de travail de Cedar Lodge, nous nous sommes arrêtés un moment sur le premier verset de ce chapitre premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce soir, nous venons de lire dans Ésaïe que ce Dieu de la Genèse, c'est bien celui qui a parlé à Ésaïe. Il n'a pas changé. Il est le même. Et hier soir, nous avons remarqué une fois de plus que la Bible ne s'efforçait pas de nous donner des preuves de l'existence de Dieu. Quand vous ouvrez votre Bible, vous êtes mis en présence de Dieu, sans explication. Au commencement, Dieu. Mais qui est ce Dieu? Pas d'explication. Ce que nous savons, c'est qu'il a créé les cieux et la terre. Donc, la Bible affirme simplement l'existence de Dieu, mais ne nous donne pas de preuves. Et nous-mêmes, quand nous parlons aux âmes, nous ne devons pas essayer de donner des preuves de l'existence de Dieu. Nous n'arriverons pas à les convaincre. Ce que nous pouvons dire à ceux qui nous entourent et qui ne croient pas à l'existence de Dieu, nous pouvons leur dire, je ne vais pas vous donner de preuves, la Bible elle-même ne s'efforce pas de nous prouver l'existence de Dieu, mais ce que je puis vous dire, même si vous me prenez pour un fou, un illuminé, j'ai éprouvé Dieu dans ma vie. Et j'éprouve Dieu dans ma vie. Je n'essaye pas de donner des preuves intellectuelles, philosophiques de l'existence de Dieu, mais je peux vous dire que je sais que Dieu existe parce qu'il est dans ma vie. Et voyez-vous, pour l'Écriture, nier l'existence de Dieu, qu'est-ce que c'est? Celui qui nie l'existence de Dieu, savez-vous comment il est appelé? Un insensé. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pour l'Écriture sainte, la négation de l'existence de Dieu, c'est un aveuglement et c'est une folie. Parce que il est tout à fait raisonnable de croire que Dieu existe. Et c'est tellement raisonnable de croire que Dieu existe que même le diable y croit et les démons aussi. Et il est dit qu'ils tremblent et qu'ils frissonnent devant Dieu. Il n'y a que les hommes qui réduisent leur cou et qui prétendent que Dieu n'existe pas. Et voyez-vous, j'aime beaucoup cette pensée qui dit non seulement que nier Dieu est une folie et un aveuglement, c'est Victor Hugo qui a dit cela, mais Augustin, cet homme qui avait vécu loin de Dieu et qui s'est converti en lisant l'Épître aux Romains, lui disait « Nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas. » On a un certain intérêt à ce que Dieu n'existe pas. Parce que s'il n'existe pas, ben on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de jugement, quand on meurt, tout est fini, et voilà. Eh bien, hier soir, nous voulions, dans ce début du camp, nous approcher de Dieu, croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, comme il l'est dit dans le chapitre 11. Les Hébreux, verset 6. Et en ayant foi en ce premier verset de la Genèse, nous apprenions à nouveau que c'était pour nous la seule manière de plaire à Dieu et d'être bénis dans nos diverses activités qui allaient se poursuivre aujourd'hui, par l'arrivée de vous tous qui avez eu à cœur de venir à nous pour nous aider. Ayons toujours dans notre mémoire cette affirmation des 9 premiers mots de la Bible. C'est quoi ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voulons croire qu'aujourd'hui, dans cette merveilleuse journée, nous avions des yeux qui voyaient et des oreilles qui entendaient, comme on l'a lu dans Ésaïe. Alors hier, nous nous sommes posés cette question en vous attendant. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la fondation du monde? C'est la question qui nous a occupés hier soir, et je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, mais avant. Ça, on est toujours porté, et surtout quand on rencontre aussi même des enfants, ils nous le demandent. Hein. Mais avant, alors, avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est très drôle, mes amis. Cette nuit, j'étais réveillé par une parole de l'Écriture. Ça se trouve dans la prière de Moïse, au psaume 90. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, donc il y avait quelque chose avant que Dieu ait créé la terre et le monde. Qu'est-ce qu'il y avait? D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu ne s'explique pas. Dieu a toujours existé, il est éternel. Et ça m'a fait du bien cette nuit d'être réveillé par cette parole. Avant que les montagnes fussent nées. Vous savez, c'était tellement clair, c'était comme un réveil. Hein? Alors, lève-toi. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je sais que Dieu existe. Il est Dieu avant toute chose. Et puis, il n'a ni commencement et il n'a pas de fin. À cette question, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce que Dieu faisait avant la création de notre terre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Luther, le grand réformateur allemand, il disait que cette question n'avait aucun fondement et il l'a rejetée. Calvin, le réformateur français qui était à Genève, lui, il citait la réponse d'un sage, et je l'ai dit hier. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il préparait l'enfer pour ceux qui posent de telles questions. Vous trouvez ça, c'était pas si mal. Parce qu'on veut toujours poser des questions. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que Dieu préparait? Mais si on lit un peu les écrits des pères de l'Église, Origène à essayer de donner une réponse philosophique. Mais la Bible elle-même, et c'est cela que vous devez consulter, est-ce que la Bible nous dit quelque chose sur ce que Dieu faisait avant qu'il crée la terre? Et nous avons dit en passant qu'il y avait sept passages très clairs, autrement dit une septuple réponse à cette question, qu'est-ce que Dieu faisait? Alors, je vous rappelle cela pour ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il faisait avant de fonder le monde? Je vous ai cité une parole de Dieu lui-même répondant à une question de Job, l'homme si éprouvé. Il lui dit, où étais-tu? Verset, chapitre 38, verset 6. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie, quand Dieu a créé le monde. Il y avait donc auprès de lui déjà des êtres. Il y avait les anges qui avaient été créés avant l'homme et qui ont assisté à la création du monde. Donc l'homme n'est pas la première créature de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait avant les hommes? Il y avait les habitants célestes. Dieu avait créé les cieux et les habitants célestes s'y trouvaient et entouraient le Créateur. Puis nous avons vu une seconde réponse dans Proverbe 8, versets 28 à 23, avant ses œuvres les plus anciennes, Dieu possédait ce qui est appelé la sagesse éternelle, qui, nous le savons, allait paraître plus tard comme étant la parole. Au commencement était la parole. Donc avant la création, il y avait la parole. Et la parole était auprès de Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Donc la parole existait de toute éternité. Et qu'est-ce que c'était cette parole? Si on lit le chapitre 1er de Jean, c'était Jésus. La parole devint chair. Donc le commencement du Seigneur Jésus n'a pas été à la crèche, pas plus que sa fin ne pourrait être à la croix. Il y avait donc, avant la création du monde, il y avait le Père avec le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Et ce que nous avons pu écouter aussi comme réponse, c'est dans Apocalypse, chapitre 13, verset 8, comme 17, verset 8. Qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde? Il préparait son dessein de salut pour les individus, pour ses créatures. Il écrivait nos noms dans le livre de vie de l'agneau, avant le commencement du monde. Et là, je me répète encore, mais je soulignais que bien souvent, dans la prédication de l'Évangile, vous entendez le prédicateur qui veut absolument qu'une âme se décide dans cette soirée-là, parce qu'il veut des résultats visibles à sa prédication, et il dira à celui qui lève la main ou qui s'avance que maintenant, aujourd'hui, son nom est écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas biblique. Les noms des sauvés, ils sont écrits quand? Avant la fondation du monde. Ça, moi, ça me bouleverse toujours.
Vos noms, mes amis, ils ont été écrits par Dieu avant la fondation du monde. Pour Dieu, vous avez existé avant la terre. Vous le croyez ? Vous existiez dans sa pensée, dans son cœur, avant la création de tout ce que vous pouvez contempler aujourd'hui. Vous étiez prédestiné avant la fondation du monde. On a vu ça aussi dans le chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens. Et puis, on pouvait continuer avec une autre réponse encore, c'est que Dieu préparait ce qu'on appelle l'Église. Avant la fondation de l'Église, eh bien, dans les temps éternels, Dieu avait arrêté qu'un jour, il y aurait une Église qui... dans laquelle il voudrait habiter et qui formerait un corps pour son fils bien-aimé, le corps de Christ. Et que ce corps serait formé aussi bien de juifs que de païens, des gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Voilà, tout cela était établi avant la fondation du monde. Et cela n'a été révélé, par exemple l'histoire de l'Église, qu'au temps de l'apôtre Paul. Le Seigneur en a parlé, il a dit qu'un jour il bâtirait son Église, c'est la première fois qu'on trouve le mot Église, mais c'était comme un secret qui avait été élaboré dans le conseil éternel de Dieu. Puis nous avons vu aussi que dans l'épître de Pierre, au chapitre 1er, eh bien, que l'agneau de Dieu était préconnu dès avant la fondation du monde pour être manifesté au temps propre. Puis nous avons eu une sixième réponse que nous lisons dans le chapitre 25 de Matthieu, verset 34, que le Seigneur dit à ceux qui sont à sa droite dans le jugement des nations, venez les bénis de mon Père, et il les fait entrer dans le royaume préparé dès la fondation du monde pour ceux qui croiraient. Et enfin, la septième réponse dans Hébreux 9, verset 14, de toute éternité, le Fils voulait se donner pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'était un conseil éternel. Alors voilà, j'ai essayé de résumer ce qui nous a un peu occupé hier soir. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la fondation du monde? Et nous, hier, avant de commencer ce travail et de poursuivre avec vous, eh bien, nous nous sommes préparés, nous avons pensé en visitant tout ce camp à tout ce qui pourrait être fait, et je vous avoue que ce soir, en repassant un peu partout, personnellement, j'ai été très reconnaissant de voir tout ce qui avait pu être accompli. Mais ça avait été pensé avant, comme le Seigneur nous montre qu'il a lui-même agi dans son conseil éternel avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, en présence des anges. Alors, ce soir, si nous connaissons par l'Écriture l'origine de la création, qui est Dieu, je vous propose une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? au fond, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde, ce monde dans lequel vous êtes? Est-ce que vous avez une idée? Pour la manifestation de son amour. Ça, c'est une très bonne réponse. Mais en tout premier lieu, qu'est-ce que Dieu, puisqu'il est Dieu, qu'est-ce qu'on peut répondre? Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas à nous rendre compte et à nous dire pourquoi il a créé le monde. Dieu est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Et nous, devant ce fait que Dieu a créé le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Adorer. Nous devons adorer. Chercher le pourquoi, eh bien oui, la Bible va nous donner des réponses. Mais ce que nous devons admettre, c'est que Dieu étant un être libre, le premier et le dernier, le tout-puissant, le très-haut, il est libre de faire ce qu'il veut. Et je vous lis un verset qui est très éclairant sur cela, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 33, il est dit « Aux profondeurs des richesses et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et lui sera rendu, car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. » Eh bien, on peut dire que Dieu était libre de faire ce qu'il voulait. Pourquoi a-t-il créé le monde? C'était son bon plaisir. Mais alors, nous avons d'autres réponses. Puisque Dieu est le Dieu de gloire, il a créé le monde pour sa gloire. Pour que le monde soit une manifestation de sa gloire. Dieu voulait être glorifié. Et au fond, toute la création devrait ou doit nous parler de sa gloire. Quand vous lisez les psaumes, je pense par exemple au psaume 19, qu'est-ce qu'il est dit? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue d'en à connaître l'ouvrage de ses mains. Alors comment est-ce que il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. On ne recherche pas Dieu. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Et pourtant, les cieux racontent sa gloire. L'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Un jour, on proclame la parole à l'autre jour. Et une nuit la fait connaître à une autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est entendue. Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde, c'est pour que le monde soit un instrument pour se glorifier et pour se faire connaître. Vous avez cela aussi dans le chapitre 1er des Romains, où vous avez une réponse à ce pourquoi la création en elle-même devrait être suffisante pour nous convaincre de l'existence de Dieu. Chapitre 1er des Romains, verset 18. Il est dit, la colère de Dieu est révélé du ciel pour toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité.
Il possède la vérité. On a entendu dans Ésaïe cette expression que ceux qui voient et qui entendent, ils sont obligés de dire c'est la vérité. C'est la vérité. Quand on lit la parole, on dit c'est la vérité. Eh bien, oui, la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu se manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Donc, la création devrait être suffisante pour nous convaincre de l'existence de Dieu. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, une des raisons de la création, c'est que Dieu a voulu nous manifester son amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous avons essayé hier de comprendre ce que veut dire Dieu est amour. Si Dieu est amour, nous disions qu'aucun amour n'est concevable sans quelqu'un qui aime et quelqu'un qui soit aimé. Alors, si Dieu est amour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aimer. Mais quand on aime quoi? On aime quelqu'un. Alors, ce que nous apprenons dans l'Écriture, c'est que Dieu aimait son Fils. Dieu avait un bien-aimé, et sa relation avec le bien-aimé, dans toute l'Écriture, est appelée de quel nom? Quel est le lien qui lie le Père et le Fils? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on parle toujours de la Trinité. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous, Dieu ne voulait pas seulement manifester sa grandeur par les œuvres de la création, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Mais il voulait aussi nous manifester ses attributs qui sont la justice, l'amour et la vérité. Et pour cela, alors il fallait que non seulement il y ait dans le monde le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, il fallait qu'il y ait des êtres qui soient l'objet de son amour et en qui il puisse manifester sa justice, son amour et sa sainteté. Et voilà pourquoi les anges d'abord ont été créés, des êtres supérieurs. Et je voudrais seulement vous laisser quelques pistes de réflexion. Est-ce que vous savez quelque chose des anges? Est-ce que vous croyez qu'il y a des anges?
Oui, il y en a. Mais nous sommes si bornés, si limités, que nous n'y pensons presque jamais. Et pourtant, ils sont là. Et ils sont des myriades et des myriades dans l'univers. Et si nous étions conscients de cela, qu'il y a dans cet univers, dans ce monde, qui n'a pas que notre Terre. Notre Terre, qu'est-ce que c'est? C'est une petite chose dans l'univers. Hein? Mais il y en a des multitudes dans l'univers, de ces soleils. Dieu a créé l'univers. Et vous croyez que c'est vide tout cela? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des vers. Dans cette multitude de création de Dieu. Et toute la Bible souligne cela. Je vais vous en donner la preuve, je ne vais pas allonger. Je voudrais simplement vous donner quelques pistes de réflexion. Il n'y a pas que la terre, il n'y a pas que nous. Il y a d'abord les anges. Et je n'invente rien. Il y a chez les anges, chez ces êtres célestes, des chérubins, des séraphins, des anges, un archange, et dans l'épître aux Philippiens, aux Colossiens, il est parlé au verset 16, par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, ou seigneurie, ou principauté, ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc il y a des trônes, des principautés, des autorités dans les lieux célestes. Et si on lit assidûment la parole, on se rend compte qu'il y a des chefs puissants pour toute espèce de contrée, non seulement de la terre, mais dans tous ces astres. Et tout cela est appelé les armées célestes. Les armées célestes. Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a des armées célestes? Et qu'un jour le Seigneur sortira à la tête de ces armées célestes pour venir mettre fin aux iniquités de ce monde. L'armée des étoiles. Mais au-dessus de ces créatures angéliques, qu'est-ce qu'il y a? Le trône de Dieu. Et la terre, qu'est-ce qu'elle est? Dans tout ce vaste univers, seulement le marchepied. Vous rendez-vous compte? Alors, si c'est que le marchepied, la terre, hein, c'est pas le centre. Ce n'est que son marchepied. C'est pas le centre du palais. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous sommes environnés de choses extraordinaires et merveilleuses. Et quand vous lisez l'appel de Dieu à la louange, croyez-vous que cela ne veut rien dire? Prenez le psaume 148. Louez des cieux l'Éternel, louez-le dans les lieux élevés. Qu'est-ce qui est là-haut, dans les lieux élevés? Ces multitudes d'anges. Louez-le, vous tous ces anges, louez-le,
Vous, toutes ces armées, où sont-elles ces armées? Ben, elles sont réparties dans l'univers. Nous, on nous parle que de la Yougoslavie, on nous parle que du Rwanda, etc. Et nous sommes obnubilés par tout cela, c'est vrai. Mais mes amis, il y a bien autre chose. Louez le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car c'est lui qui a commandé, et ils ont été créés, et il les a établis à perpétuité pour toujours. Il a rendu son décret, et ils ne passeront point. Louez de la terre l'Éternel, vous monstres des eaux, et vous tous les abîmes, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécute sa parole, montagne et vous toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre, jeunes hommes et les vierges aussi, vous vieillards avec les jeunes gens, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et alors, qu'est-ce que nous apprenons? C'est que Jésus a été élevé au-dessus de tout cela. Et ensuite, dans ce monde, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, mes amis, demain, j'essaierai de répondre à une autre question. Que s'est-il passé pour que, dans cette création, ça aille si mal? D'où vient le mal? Est-ce que la Bible nous donne une réponse? Nous chercherons à voir ça demain. Ce ne seront pas mes pensées, mais je voudrais que vous ayez une réponse qui soit sûre. Est-ce que c'est l'homme qui a introduit le péché dans le monde? C'est un ange. Ça vient de loin. C'est un ange. Et est-ce qu'on en a une preuve? Et si c'est un ange, ce n'est qu'une créature de Dieu. Alors on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Bien, nous le verrons. Je voudrais que ce soir, avant de vous endormir, vous puissiez vous tenir tout simplement dans la présence de Dieu et lui demander, révèle-moi, ô Dieu, qui a créé toutes choses, révèle-moi ta grandeur, révèle-moi ta gloire, révèle-moi ton amour. Alors en fait, oui, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il aimait. Et il n'a pas fini de nous aimer. Vous pouvez encore tout espérer de son amour. Ô Dieu, nous nous prosternons devant toi. Demain, nous espérons avoir un culte d'adoration. Et nous voudrions être vraiment des adorateurs. T'adore en esprit et en vérité. Des adorateurs qui sachent qui ils adorent et qui croient tes paroles. Nous savons ce que tu faisais avant la création du monde. Et donne-nous d'essayer de comprendre la grandeur de tes œuvres et que nous venions t'apporter nos louanges. Non pas seulement parce que tu as fait une œuvre en Jésus qui nous a sauvés, mais t'apporter notre louange parce que tu es Dieu, indépendamment de toutes nos expériences. fais de nous vraiment des adorateurs, inconditionnels, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y en a pas eu avant toi, il n'y en aura pas après toi. Sanctifie-nous par ta vérité et permets que cette préparation pour les camps nous marque et ouvre nos cœurs, notre esprit, notre intelligence, à tes pensées, à tes desseins éternels, pour ta seule gloire et pour l'honneur de Jésus et de Jésus seul. Amen.